voix nue. Cette semaine, Marie-Laure Delort me rencontre Carla Bruni. Ce soir, le pouvoir de la beauté.
Bonjour Carla Bruni.
Bonjour.
Après la famille, on va parler avec vous de la beauté. On va revenir sur vos années de top modèle. Nous sommes à la radio. Les auditeurs vous écoutent mais ne nous voient pas. Vous qui êtes tellement scrutée, sans arrêt, depuis toujours, est-ce agréable de pouvoir être dans l'abandon physique ?
Ah oui, c'est agréable, surtout pour la radio qui est quand même le média le plus mystérieux. Normalement, média et mystérieux, ça va pas ensemble. Mais et je trouve ça merveilleux, voilà, merveilleux d'entendre une voix et de se certaines personnes connaissent mon visage, mais entendre votre voix, par exemple, vous êtes connue aussi par votre plume, mais moins par votre visage, et je trouve ça très merveilleux, par exemple, l'idée de entendre ce qu'on est en train de se dire là, sans savoir forcément. Le visage, ben ça laisse beaucoup de possibilités à l'imagination. C'est quand même infiniment plus poétique que d'imprimer ces images partout, partout, partout.
Votre visage, à vous, il est mondialement connu. Est-ce que le regard des hommes vous a parfois pesé ? Est-ce que, notamment à l'adolescence, il a pu être pour vous un embarras ou il a toujours été un plaisir ?
Le regard des hommes, ou en général le regard, ne m'a jamais pesé. À l'adolescence, j'ai effectivement ressenti un peu de vulnérabilité. Mais je vais vous dire un truc qui va vous sembler un peu cabot. Ce qui me rendait vulnérable, c'est de ne pas avoir de regard, en vérité. Le regard m'a toujours donné une...
J'ai eu peur, j'ai cru que vous alliez me dire que seule la beauté intérieure compte.
Que la beauté intérieure n'existe pas. Qu'est-ce que c'est que cette beauté intérieure, Marie-Laure ? Ne vous leurrez pas, elle n'existe pas. Non, au contraire, moi ça m'a construit. Mais effectivement, peut-être que je ne ressentais pas un regard particulièrement... relié à un désir sexuel, par exemple. Mm-hmm. J'ai toujours ressenti des regards... moi, j'ai eu beaucoup de chance. Je n'ai jamais eu affaire à des choses brutales en tant que jeune fille. Donc, je me suis construite dans une...
Vous l'expliquez comment, ça ?
Par le hasard, vraiment le hasard. Je pense que c'est le hasard. Après, moi, je suis très, très prudente. Et j'essaye d'infliger, j'ai vraiment choisi le mot, cette prudence à mes deux enfants, de manière à ce qu'elles fassent corps avec eux et qu'elles leur restent toute la vie. Et qu'à chaque fois qu'il s'agit pour eux de faire quelque chose d'un petit peu relativement dangereux, qu'ils choisissent de pas le faire, parce que je vais pas pouvoir veiller sur eux toujours. Mais moi, j'ai toujours été très prudente, je suis très craintive. Donc peut-être c'est ça qui m'a protégée. Moi, je crois que c'est le hasard et la chance. Je crois qu'on se leurre beaucoup. Je crois qu'on croit diriger nos vies, mais on est très peu. On est vraiment comme une coquille de noix sur les flots. Et on dépend beaucoup du hasard et de la chance ou de la malchance. Donc, il ne faut pas se leurrer. Il n'y a pas de mérite à avoir un peu de chance.
La beauté est un pouvoir. Est-ce que vous ne trouvez pas que c'est un trop grand pouvoir ? Parce que c'est à la rigueur le plus injuste des pouvoirs.
C'est un pouvoir injuste. C'est un grand pouvoir. Mais c'est bien fait parce que ça se désagrège, ça ne reste pas. Et de notre vivant, assez vite. Et je ne dis pas ça en disant « Ah oui, j'ai été une fille belle et tout ça ». Moi, je me trouvais pas particulièrement belle et c'est d'ailleurs pour ça que je cherchais tous les regards. J'étais contente quand on m'a dit que si ça se trouve, je ferais partie des gens beaux. Quand tout d'un coup, je me suis rendu compte qu'il y avait un frémissement de ce côté-là. Mais enfin, moi, j'ai grandi un peu comme une mendiante, je ne sais pas pourquoi. Donc, j'imagine qu'il y a des filles que ça étouffe. Par exemple, je peux imaginer une fille aussi sublimement sensuelle que Marilyn Monroe, qui a en plus été constamment abusée et abandonnée, donc sans protection. Et puis cette espèce de beauté comme ça, on sent bien que chez Marilyn Monroe, ça a été sans doute une des causes de sa mort prématurée, cette beauté. On sent aussi, on parlait à notre première rencontre de Brigitte Bardot, c'est pareil, une telle beauté, peut-être que ça leur a pesé. Moi, la mienne, pas du tout. Alors, je ne devais pas en avoir autant, parce que je vous dis, ça ne m'a pas pesé du tout. Maintenant, elle est partie, j'en pleure tous les jours. Et non, bon, ah, ça, je vous dis, non, ça, la beauté, je ne trouve pas qu'on accorde trop de pouvoir à la beauté. En tout cas, le pouvoir qu'on a accordé à la mienne, il ne m'a pas étouffée, et il me manque.
Vous êtes devenue top modèle à 19 ans. Est-ce que c'était pour vous, en tout cas, une évidence de travailler, de gagner votre vie, d'avoir votre univers ?
C'était pour gagner ma vie.
Donc ça, ça a toujours été ancré en vous ?
Ça a été une obsession.
Et
c'est en ce sens-là que je vous disais... parce que ça nous a été inculqué par ma mère de travailler, d'être indépendante. Donc j'ai tout de suite voulu travailler et les études m'auraient obligée à rester... très longtemps. Alors merci, en quelque sorte. Donc, même si j'avais beaucoup d'affection pour mes parents, j'avais vraiment envie de travailler. J'avais vraiment envie de gagner de l'argent et d'être indépendante. J'aurais fait n'importe quoi d'autre si j'avais pas été mannequin. J'aurais fait n'importe quel travail.
Vous êtes devenue une des top modèles les plus célèbres dans le monde entier. Est-ce qu'il y avait un complexe de ce côté-là, celui de devoir, pendant ce temps-là, prouver que vous étiez intelligente ?
Peut-être, mais je l'ai pas ressenti. J'ai pas non. En tout cas, non. Il y avait pas un complexe conscient, en tout cas. Je la ramenais tout le temps, mais je suis pas sûre que ce soit pour faire croire que je sois intelligente. Je crois que c'est parce que je suis bavarde. Et en plus, je suis pas du tout intellectuelle. Et je suis une autodidacte. Donc j'ai pas d'examen, j'ai le baccalauréat, quoi. Vous voyez, donc.
Quel souvenir vous gardez de vos années de top modèle ?
Ah, c'était très très gai, parce que c'est un métier de groupe, de grand groupe. Et le monde de la mode est un milieu très peu jugeur. Donc en fait, je suis passée du milieu de mes parents, qui jugeaient assez peu, au monde de la mode, qui est un milieu très particulier. Évidemment, ils jugent vos vêtements et votre allure. Mais c'est très peu de choses. Ils jugent pas le reste. Donc on peut venir de n'importe où, parler n'importe quelle langue, être de n'importe quelle couleur, être de n'importe quel sexe, gender, et faire quoi que ce soit. Dans le monde de la mode, c'est assez accepté. Ce qui n'est pas accepté, c'est d'être ennuyeux, par exemple, ou mal habillé. Lagerfeld, il a dit une bonne phrase sur le monde de la mode, il a dit « la mode, c'est pas moral ». C'est pas amoral, c'est fait pour remonter le moral. Et c'est précisément ça, c'est vraiment une distraction agréable et qui peut être intime en plus, parce que un parfum, un foulard, un accessoire, ça peut être intime. Votre super joli bracelet, là par exemple, c'est tout près, c'est sur votre peau. Est-ce que c'est à la mode, est-ce que c'est pas à la mode? Mais de toute façon, c'est votre mode, donc on peut avoir son style. Donc on fait un pas vers cette espèce de choses artificielles qu'on a, nous, les êtres humains, et qui est quand même plus agréable que cette animalité avec laquelle on doit vivre, mourir, accoucher ou avoir des maladies. Et donc la mode, ça nous mène vers cette espèce de chose-là où on a l'impression d'être des êtres un peu abstraits, et on n'a pas tout le temps cette impression de « oui, la mort arrive, t'inquiète pas, ça va te tomber sur le coin de la tête, et tout est une tragédie, et ça n'a aucun sens, etc. » La mode, ça dissout un peu tout ça, comme... Et donc, j'ai adoré ces années-là. J'ai adoré les filles. Ben, j'aime beaucoup les filles, moi. Pas sexuellement, en fait, mais pour tout le reste.
Vous avez beaucoup d'amis femmes.
Beaucoup d'amis femmes. Et puis, j'ai une grande affinité avec les femmes. J'aime les femmes, j'aime leur beauté, j'aime leur charme, j'aime leur intelligence, j'aime leur force. Je les vois jamais comme des victimes, les femmes, même si elles le sont souvent, bien sûr. Mais même quand elles sont les victimes, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose d'irréversible chez les femmes que les hommes n'ont pas.
Vous avez été top modèle durant les années, en gros, 1987-1997. C'est un métier qui depuis...
C'était les bonnes années.
Oui, c'est ce que j'allais dire. C'est un métier qui depuis a été beaucoup décrié. Du moins, pas le métier, mais le milieu, plutôt. Comment vous avez fait pour échapper à l'alcool, à la drogue, au harcèlement?
Le harcèlement, je crois que c'est par hasard. Je suis rentrée tout de suite dans des agences de femmes. C'est d'ailleurs le conseil que je donnerais à une jeune fille si elle nous écoute. Par exemple, si elle souhaite devenir mannequin, c'est de se diriger plutôt vers des agences de femmes. Bon, après, dans la mode, il y a une population extrêmement peu sexuée. Qui n'est pas du tout portée à ça, ou alors en tout cas chez elle, mais pas... Bon, j'ai vu qu'il y avait des gens accusés d'abus, bien sûr. Ils doivent sans doute exister. Moi, je les ai pas rencontrés. J'ai eu beaucoup, beaucoup de chance. Ou je les ai pas inspirés, peut-être. L'alcool et la drogue, j'y ai échappé parce que... Qui vous dit que j'y ai échappé?
Vous n'y avez pas sombré, en tout cas. Puisque vous êtes là, devant nous, et bien portante.
Et bien portante.
Alors qu'on vous imagine...
J'y ai échappé.
On vous imagine comme une personnalité excessive et non pas modérée.
Absolument excessive. Absolument excessive. Donc j'ai échappé, par hasard encore une fois. Je pense que je n'ai pas du tout le goût de l'autodestruction, en vérité, c'est ça. Donc j'ai le goût de la fête, sans doute, mais pas celui de la destruction. Et puis le goût de la fête m'est passé très vite, parce que vous savez ce qui m'a sauvée, voilà, je vais vous dire. J'ai le goût du sommeil, je suis une marmotte. Et comme la mode, ça commençait tous les matins à 6 heures, ce qui m'a sauvée, c'est finalement de travailler, d'avoir autant de travail. J'ai eu de la chance. J'ai tout de suite eu beaucoup de travail. Et il était absolument impossible de faire la fête pour moi. Et de se réveiller à 6 heures et d'être opérationnelle. Donc j'ai vite choisi. Et à 18 ans, j'avais déjà une vie complètement adulte. Où je me couchais tout le soir. Kate Moss m'appelait Boring Bruni. Donc j'y ai échappé, oui. C'est plus dans la première jeunesse que j'ai frôlé un peu des choses plus dangereuses. Avec l'alcool et la drogue, c'est surtout l'alcool, mais j'y ai échappé, oui.
C'est la période aussi de ce qu'on appelait les années sida. Est-ce que vous avez vu des gens que vous aimez mourir du sida? Est-ce que vous étiez consciente de la tragédie?
Oh là 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 là, oui, nous on était aux premières loges. Dans le milieu de la mode, on était aux premières loges. C'est-à-dire qu'il y avait beaucoup, beaucoup de personnes qui sont parties tout de suite. C'est peut-être le milieu qui a été le plus touché, le showbiz, mais la mode en particulier, showbiz en général. Par la présence de beaucoup de garçons homosexuels, et le sida a tout de suite touché cette famille-là au début, donc la nôtre, hein. Et puis on a commencé à perdre tous les autres, et puis après ça c'est devenu une pandémie très très vite, hein. Mais au début, quand même, dans la mode, c'est tous les jours, il y avait quelqu'un qu'on perdait. Tous les jours, quelqu'un de notre équipe qui partait. Tous les jours, tous les jours, tous les jours, dans les années 80. Ça a été un désastre. Et c'est inoubliable, la terreur que ça nous a inspiré à tous.
Est-ce que ça a changé votre rapport à la mort? Ou pour poser ma question autrement, est-ce que vous avez intégré la mort comme faisant partie de la vie, ou est-ce que c'est toujours pour vous une source de souffrance?
C'était une source de souffrance relative à mon frère, parce qu'il a attrapé, lui, il a chivé très très tôt. Et il ne, pour une raison qui m'échappe encore aujourd'hui, ne l'a dit qu'à moi, dans toute la famille. Donc on a passé de nombreuses et longues années où j'étais seule à savoir qu'il avait cette maladie, qui était une maladie qui était comme une faucheuse à cette époque, qu'il est encore. Hein. Faut pas croire que ça ne tue plus personne, mais évidemment ici on a tous les médicaments, donc c'est pas la même situation. Mais même aux jeunes gens qui jouent avec ça et qui pensent que l'attraper maintenant c'est pas très grave, je dis qu'ils se trompent. Vous comprenez, c'est attraper un truc très très grave. Donc oui, j'ai souffert de la maladie de mon frère, j'ai souffert de la maladie de tous mes amis que je voyais partir l'un après les autres. Et c'était une épidémie qui apportait aussi, et ça c'est détestable, qui apportait aussi un jugement moral. Moi, vous l'aurez compris, en général, les jugements moraux, moi ça me débecte, et les jugements tout court, hein. J'aurais pas pu, je pourrais même pas accepter d'être dans un jury.
Vous avez perdu votre frère, hein, qui est mort du sida. Je sais qu'il a beaucoup compté pour vous. Quel portrait vous en feriez?
En fait, c'était quelqu'un, mon frère, de très, très pudique. Alors, c'est difficile de parler de lui sans avoir l'impression, pour ceux qui croient qu'on nous entend ou qu'il y aura quelque chose dont je suis mystique à point, j'ai toujours peur qu'il y ait quelque chose de lui qui encore entende, on espère ce qu'on peut. Et j'ai fait une chanson sur lui qui s'appelle Salut Marin, et cette chanson, voilà, je l'ai faite en faisant bien attention au cas où il l'entendrait, que ça ne le gêne pas. Parce que la principale caractéristique de mon frère, c'était la pudeur. Et je ne voudrais pas mettre les pieds dans le plat de sa pudeur, si vous voulez, en parlant de lui. Il était, sinon, et à part ça, il était très charmant, parce que, justement, il avait cette réserve qui a beaucoup, beaucoup de charme. Et puis, il était solitaire. Il aimait beaucoup les femmes. Il aimait beaucoup sa femme, mais il aimait beaucoup les femmes en général aussi. Il était très respectueux des femmes. Et voilà, il est parti vers 40 ans.
Quelqu'un qui aussi était pudique et réservé, c'est Yves Saint-Laurent. Le modèle de la femme Saint-Laurent, c'est la femme féminine masculine. Vous, on vous envisage comme ultra féminine. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est si simple que ça? Parce que ceux qui vous connaissent disent que vous avez un côté effectivement très mec.
Ah, oh, je suis pas tellement féminine. Non, je pense que c'est l'image. Et l'image aussi relative à d'abord le mannequinat, ensuite comme chanteuse. C'est vrai que je suis une chanteuse et je fais des choses douces. Et on croit que la douceur est féminine. Et après, lorsque je me suis mariée quand même à un homme qui a beaucoup de caractéristiques soi-disant masculines et qui était dans une position très alpha. Parce que, évidemment,
président
quand
de la République.
Président de la République, c'est alpha, même si on est une femme. Et donc, c'est du pouvoir, quoi. Bon, l'apparence que j'ai et la musique que j'écris, j'ai du mal à choisir. Mais l'image, je peux un peu choisir l'image. Je pourrais projeter une image. J'ai des amis qui sont ce qu'on appelle des badass. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai des amis qui ont des images, qui sont des filles tatouées, qui sont des filles qui la ramènent tout le temps, qui peut-être à l'intérieur sont mille fois plus fragiles que moi, mais qui envoient cette image-là. Ce que j'aime aussi. Je suis très séduite par les femmes comme ça. Moi, j'aime... Moi, je suis prudente. Donc, j'ai toujours envoyé une image... qui était le plus distante possible de, par exemple, de l'arrogance. Et peut-être qu'au fond de moi, je suis un monstre d'arrogance, mais je crois pas. C'est de là que passe cette chose de douceur et de féminité. Je crois qu'elle passe à travers un truc. Mon mari me dit toujours, arrête de dire que t'es modeste. T'es pas modeste, t'es à droite. T'es maligne. Je dis pas du tout. C'est toi qui es pas modeste, et moi je suis très modeste. Mais enfin, il y a quelque chose de simple dans la douceur de l'image, de plus simple pour moi. C'est plus simple. Vous savez qu'on n'est jamais comme son image. On peut pas contrôler son image. Donc il faut envoyer quelque chose qu'on puisse supporter et qui vous fasse pas des volets de bois vert à chaque fois. Quand je suis arrivée tout d'un coup à l'Élysée, j'étais pas non plus préparée, j'avais jamais connu de vie politique et ça, mais je connaissais l'image. J'avais affaire à mon image depuis déjà 22 ou 23 ans. Donc, j'ai pas souffert de l'image. Donc, les gens me disaient, mais enfin, pourquoi tu te mets là avec un col Claudine, t'as des gants, tu tiens ton sac, t'as l'air ridicule, et tout ça. Mais pourquoi ils veulent que me mettre en short vinyle, danser à côté de la reine? Mais ils sont fous. D'abord, c'est pas poli. Quand on représente un pays, faut être poli, on représente tout un tas de gens qui veulent de la réserve. Ensuite, c'est pas moi qui ai été élu. Encore élu président, bon. Mais là, j'étais juste la meuf du mec. Attends, je vais pas la ramener, attirer l'attention, faire ma maline et mettre mon mari dans une position ridicule. Donc, les gens me disaient, mais tu devrais parler davantage. Non, je crois qu'on doit absolument pas parler davantage. L'épouse du président n'a rien à dire. Et je vois pas pourquoi on lui fait tout le temps parler, on lui pose tout le temps des questions. C'est absurde. C'est lui qui a été élu, le mieux que puisse faire l'épouse ou le mari de quelqu'un qui est président de la République. Donc, j'ai fait exprès de donner cette chose de douceur, pas pour mentir, mais par politesse, par envie de ne pas faire des vagues et par envie d'être appréciée.
Parlant de beauté, que ça soit Valérie Traveiller, vous, Brigitte Macron, vous avez été scrutée, jugée de manière différente, mais sur votre physique, les kilos en trop, pour l'une, les rides, les tenues, on a beaucoup commenté votre tenue de départ. Quel regard vous portez là-dessus ?
Bon, ça a très peu d'importance quand même. Donc moi, ça m'a fait assez peu d'effet.
Vous ne pensez pas que les jugements, par exemple, sur la différence d'âge entre Brigitte Macron et Emmanuel Macron...
C'est pas très aimable, mais si c'est pas ça, c'est autre chose. Moi, les gens disaient que j'étais pas bien habillée en partant de l'Élysée, mais c'est le seul vêtement dans lequel je rentrais. J'avais 17 kilos de plus. À chaque fois que je vois un reportage qui remet ces images-là, je... Oh, ça me déprime. Mais j'avais la petite encore au sein. Je venais d'accoucher, en vérité. Et j'ai pas la grossesse maigre, moi. Mais je trouve que le truc de l'âge, c'est pas très sympathique. Que dire d'une femme qu'elle est grosse après un accouchement, c'est pas très sympathique. Que dire d'une femme qu'elle a des rides, quand elle a deux rides, c'est pas très sympathique. Par ailleurs, Brigitte Macron, elle est incroyablement pétillante. Donc quand on la voit, on voit pas du tout un décalage avec son mari. Bien sûr, ils ont pas le même âge, mais il y a pas de décalage. Vous comprenez ce que je veux dire? Il y a la même énergie, par exemple. Donc moi, je suis beaucoup plus molle que Brigitte Macron. Vous me mettez à côté de mon mari, je vois, dès qu'elle arrive, je suis fatiguée. Tellement, on n'a pas du tout déséquilibre. Moi, je suis comme dans, nous, on est comme dans la chanson, vous savez, de Ella Fitzgerald et Louis Armstrong. Vous voyez, I say potato, you say potato, I say tomato, you say tomato. On est à l'opposé. Lui, il a toujours chaud, moi, j'ai toujours froid. Il y a une harmonie dans le couple du président Macron et de son épouse puissante.
Vous dites, c'est pas très sympathique. Est-ce que c'est pas très violent?
Non. Ce qui est violent, c'est d'avoir une vie épouvantable. Ce qui est violent, c'est d'être dans la pauvreté et d'être dans la maladie. Ça, c'est violent. Je suis désolée. C'est pas violent d'être à l'Élysée avec un garçon qui est président de la République. Je suis désolée, c'est pas violent d'avoir des commentaires.
C'est ce que j'allais vous dire, des commentaires très insultants sur Twitter, des mensonges, des rumeurs.
Alors, on l'est pas. Qui nous oblige? Mon copain Alain Souchon, il a pas de téléphone. Hein, on n'est pas obligé d'être tous comme des cons à faire les mêmes moutons. Hein? Qui nous oblige à aller sur Twitter regarder les gens qui nous injurient pour si on est quelqu'un de connu? Moi, pendant 4 ans et demi à l'Élysée, j'ai pas regardé un commentaire. Donc, ça m'a fait zéro. Ce qui me fait un tout petit peu, c'est quand on m'en parle. Tout le monde peut s'abstraire de ça. C'est très facile. Et vivre là-bas, rencontrer les gens qu'on rencontre, avoir les expériences qu'on a quand on est là-bas, c'est tellement incroyable, c'est tellement exceptionnel, enrichissant pour quelqu'un qui n'est pas dans la politique du tout. C'est tellement extraordinaire que je refuse de me plaindre des commentaires de Twitter. Je m'en fous, mais comme de l'an 40. Et qu'est-ce qui reste de leurs commentaires? Et ils sont signés Mickey et Donald. Vous croyez que ça m'impressionne? Parce que moi, si j'écris Marie-Laure a un très, très, très joli pull bleu marine, je signe Carla Bruni, si je dis Marie-Laure est habillée comme un sac à poux, et je signe Carla Bruni, vous avez le droit de m'appeler, de me dire, écoutez, vous êtes mal élevée, Carla, pourquoi vous dites ça, etc. Et si je signe Mini, hein, ou la Reine des Neiges, franchement, ça vous fait ni chaud, ni froid. Ça aussi, l'anonymat, vous savez, moi, l'anonymat? Moi, je m'appelle Tedeschi, hein, de mon père. C'est-à-dire, nous, on était des juifs allemands, même si c'est pas mon sang. Moi, l'anonymat, j'aime pas ça. La dénonciation, le jugement d'autrui et tout ça signé la Reine des Neiges, ben je vais vous dire, il n'existe pas ces gens pour moi.
Parlons de beauté, d'image. Est-ce que c'est plus dur de vieillir quand on est belle?
Moi, je trouve que c'est très dur de vieillir. Et quand les autres, ils vous trouvent belle, après, on fait un peu plus attention. Du coup, on se regarde. Moi, je me trouve pas particulièrement belle. Mais après, comme j'ai tellement travaillé avec ça, après, je me suis dit, mais peut-être que je suis pas mal belle. Il y a eu un moment où je me suis dit, mais peut-être que je suis belle. Donc, alors, je me suis mise à faire du sport et cette espèce de course éperdue. Mais c'est pour moi, c'est l'incarnation du pathétique. Ce que je suis en train de vivre, par exemple, maintenant, qui a 51 ans, je trouve ça pathétique. S'intéresser à cela, passer sa vie à essayer de rester l'apparence d'une jeune femme, y parvenir même parfois, c'est-à-dire se dire que un groupe de jeunes gens me voyant de dos se dit que je suis l'une d'entre eux et qu'après ils me voient et s'aperçoivent que je pourrais être leur mère, pour moi c'est la tristesse. Et oui, je trouve ça très très triste de vieillir, très triste de se croire belle, très triste de s'accrocher à sa beauté, de croire que la beauté c'est ça. C'est pathétique. Alors là, on n'a pas eu d'éducation pour ça, parce que ça fait trop peu de temps que nous, l'espèce humaine, on a autant d'images. Et c'est difficile quand les gens, ils vous prennent en photo, de pas se croire cette image, non? De pas se dire, mais c'est moi, je la mérite, au fond, j'ai tout fait pour être comme ça. Et je suis comme ça, et je suis plus belle que quelqu'un d'autre. C'est intégralement faux. On sait tous que personne n'est plus beau. Souvenez-vous que au siècle dernier, il fallait être une femme ronde pour être belle. Donc, par exemple, moi, j'aurais été laide. Il fallait avoir des petits pieds. Alors là, moi, j'étais mise, mais en prison, littéralement. Vous êtes limite maigrichonne, hein, pour le 18e, par exemple. Et vous êtes une femme normale. Vous n'êtes pas mère, je le dis à nos auditeurs. Vous êtes pas ronde non plus, donc vous êtes une femme mince, hein. Ok, ben, on vous aurait trouvé un sac d'os, donc tout est relatif quand même. Si on va dans certains pays d'Afrique, vous et moi, on trouve pas d'amoureux, hein. Non, pas d'amoureux, hein. Maigre et blanche comme ça, on n'a pas l'air. Il y a des pays où la beauté c'est vraiment l'embonpoint, hein. Aussi parce que c'est des pays qui viennent de famine parfois, et que donc l'embonpoint, c'est le luxe, c'est la beauté, c'est la preuve qu'on est de bonne famille et que on est bien nourri, etc., et qu'on est belle et qu'on est fertile. La beauté, moi, je la ressens pas. Je ressens pas la mienne. Je ressens plus la vôtre, c'est-à-dire je ressens plus la beauté d'autrui. Je suis sensible à la grâce d'autrui. La mienne, elle me déconcerte parce que je la vois pas beaucoup et qu'elle m'a tellement servi. Qu'il faut qu'elle doit exister quelque part, puisque j'en ai tant fait et qu'on me l'a tant dit. Mais moi, elle m'a rien donné presque. Elle m'a donné un beau métier et elle m'a donné la possibilité d'être célèbre, ce dont j'avais besoin. Mais maintenant, c'est comme une cause perdue, quoi. C'est comme une peau de chagrin.
Vous avez posé nu de nombreuses fois. Quel rapport vous avez?
Pas du tout, je vois pas pourquoi vous dites ça. C'est une autre femme.
Quel rapport vous avez à la nudité?
Je mets ma pudeur ailleurs, c'est certain. Puis, ce qui se passe avec la photographie, c'est que c'est une impudeur, même si on est tout à fait habillé. Je suis sûre que, par exemple, tiens, je prends vous avez l'air, je vous prends comme exemple parce que vous êtes une femme et qu'on est toutes les deux en face l'une de l'autre aujourd'hui. On a le même âge, on est à la même tranche d'âge, etc. Évidemment, vous êtes une intellectuelle, vous écrivez, mais je suis sûre que vous êtes gênée quand on vous prend en photo et je suis sûre que vous êtes gênée quand vous voyez les photos. Ça, c'est la réaction normale de tout un chacun. Donc, peu importe qu'on soit habillé ou nu, c'est gênant. Et quand on met le doigt là-dedans, quand on commence à jouer avec ça, on fait comme Narcisse. Hein. On joue avec ça. Et Narcisse, il en est mort. Le problème de Narcisse, c'est pas qu'il aimait se regarder, c'est qu'il préférait son reflet à lui. Toutes les personnes saines d'esprit préfèrent, elles, à leur reflet.
Merci, Carla. Merci. Bruni. À demain.
Vous retrouverez demain la suite de cette rencontre de Marie-Laure Delorme avec Carla Bruni. À voix nue. Réalisation Lionel Quentin, prise de son Romain Luquiens, coordination Claire Poinsignon. À voix nue s'écoute en ligne et ce podcast sur franceculture.fr.